On jase vous est présenté par Ford du Canada. Construit avec fierté.
Mardi, le 7 décembre 2021. Bon midi, mesdames, messieurs. Bienvenue à cette toute nouvelle édition de On jase. Pour l'instant, Yannick Lévesque seul avec vous. Martin Lemay va se joindre, j'imagine, en cours de route. J'espère que ça va bien, que vous êtes en forme. À quelques heures du match ce soir entre le Lightning de Tampa Bay et le Canadien de Montréal. Je devrais dire entre le Lightning de Tampa Bay et le Rocket de Laval. C'est quasiment ça. Il y a tellement de blessés et d'absents du côté du Canadien. Ça va vraiment être difficile, mais quand même, il faut prendre ça match par match, période par période, et on aura l'occasion d'en parler en long et en large aujourd'hui avec nos panélistes invités. Marc Denis qui sera avec nous dans quelques instants, et par la suite, Guy Boucher va se joindre à la discussion aux alentours de 12h30. On va prendre évidemment vos questions, on va lire vos commentaires, que ce soit sur le rds.ca ou sur les pages Facebook de On jase et de RDS. On aura les commentaires de l'entraîneur-chef Dominique Ducharme. Nous aurons également les commentaires un peu plus tard de Cole Caulfield et de David Savard. Bref, beaucoup, beaucoup de choses au menu aujourd'hui. Et comme c'est le cas habituellement, un jour de match, allons-y avec le petit joueur électrisant pour le match de ce soir.
Le joueur électrisant vous est présenté par Ford du Canada.
Alors, le joueur que nous avons choisi ce soir, ben, c'est un petit nouveau, Cale Klag. Ben oui, qui va disputer un premier match dans l'uniforme du Canadien ce soir. Il a été réclamé au ballottage au cours du week-end par le tricolore. Bien évidemment, avec le nombre de blessés ce soir, il sera donc de l'alignement. Ça va être intéressant pour certains de le découvrir. Pour nous, on a moins eu la chance de le voir évoluer puisqu'il évoluait avec les Kings de Los Angeles. Se retrouve maintenant avec le Canadien, donc sera employé ce soir. Je peux même vous dire avec qui va être employé à la défensive ce soir. Il formera un duo avec Brett Kulak pour le match de ce soir, et ça va être intéressant de le surveiller. C'est notre joueur électrisant Ford pour le match de ce soir. Demain, on va vous revenir avec les statistiques et commentaires. Bon, comme à l'habitude, vous savez que Dominique Ducharme, jour de match, parle toujours un peu plus tôt à la presse. Donc, il s'est entretenu ce matin avec les médias. On vous présente un extrait de ce point de presse de Dominique Ducharme. Et au retour, Marc Denis se joint à moi.
C'est évidemment très différent du mois de juillet par rapport juste à l'alignement. Donc, est-ce que c'est un match revanche? C'est pas les mêmes effectifs. Donc, vraiment, on sait qu'on fait face à une bonne équipe ce soir, puis c'est un bon défi. Puis, dans le fond, il y a trop de différence par rapport au mois de juillet l'année passée pour dire que c'est un genre de revanche.
Il va jouer les trois prochains matchs. Il y a besoin de... C'est un gros ajustement pour lui. Je pense que c'est important pour lui de jouer dans un style de hockey nord-américain, de patinoire nord-américaine. Il a besoin de temps de jeu. Il a besoin de millage de ce côté-là. Donc, il va jouer ces trois matchs-là. Passer la date à partir du 1er décembre, il pourrait rester à Laval pour le reste de la saison. Donc, il va jouer ces trois matchs-là. Il va avoir des discussions ensuite entre l'organisation, lui, son agent, pour voir c'est quoi, qu'est-ce qui est mieux pour son développement.
Ce segment vous est présenté par Subway. Mangez frais.
C'est avec grand plaisir que l'on retrouve notre collègue Marc Denis. Et quand tout va bien, mon cher Marc. Martin n'est pas là, puis moi, je viens de perdre le son. Fait que je vais te lancer sur ton premier sujet, le temps que je change mon équipement. C'est de la télé en direct, mais d'abord, je te demande, comment vas-tu, mon cher ami?
Ça va très bien, Yannick. Mais là, tu viens de te mettre dans une position qui est douteuse un peu, parce que tu me poses une question, je vais essayer de t'acheter un peu de temps. Puis je présume que tu vas vouloir me lancer l'autre sujet. Mais si jamais tu ne m'as pas entendu, je vais être prêt. On va pouvoir parler du Canadien. Mais avant que tu me lances sur ta question, dans le fond, dans le cas de Mathias Norlinder, Dominique Ducharme l'a très bien résumé. Après le 1er décembre, qui est une date névralgique dans le cas des joueurs et de l'entente stipulée entre autres la Ligue d'élite suédoise, mais en fait, la plupart des joueurs européens de la Ligue nationale de hockey passés le 1er décembre. Il y a une décision qui est à prendre au 1er décembre, mais passé le 1er décembre, oui, Mathias Norlinder pouvait être cédé donc au Rocket de Laval. Pas besoin d'être sous assignation de conditions physiques. Là. Pouvait l'être, peu importe le prétexte, et en fait, pouvait même rester avec le Rocket pour le reste de la saison. Pour moi, Norlinder n'avait pas assez de temps de jeu avec le Canadien. J'aurais aimé voir le Canadien lui faire confiance davantage, mais en même temps, et ça, ce sera une partie du sujet dont on va parler aujourd'hui, Yannick. Le temps de glace, là, c'est pas gratuit. C'est pas gratis, du temps de glace. Ça doit se mériter, ça doit se faire dans les bonnes circonstances, surtout lorsqu'on se tourne vers l'avenir. On peut pas juste donner du temps de glace à des jeunes. Alors, je sais que ça sera un des principaux sujets dont on va aborder aujourd'hui, et j'espère que j'ai acheté juste assez de temps pour que tu puisses récupérer le son et me poser ta prochaine question.
Hey, Mac! T'es un génie, mon Mac! T'es un génie! J'ai réussi à changer mon appareil, puis en même temps, Martin est arrivé. Wow, c'est merveilleux! Écoute, là, je t'entends bien. Écoute, c'est ça, la technique des fois, là. Mais écoute, Mac, t'as vraiment
j'ai été chanceux. J'ai juste été chanceux. C'est en plein ça. Je vous ai parlé de Norlinder, de la situation. Je sais que ce n'était pas un des sujets qu'on voulait parler aujourd'hui, mais je trouvais que le prétexte s'y présentait bien avec le point de presse de Dominique Ducharme et le renvoi de Mathias Norlinder avec le Rocket.
Bon, Martin vient d'arriver, puis je vais lui laisser le temps de s'installer. Je vais te lancer sur notre premier sujet, Marc. Il y a Dominique Ducharme qui a parlé, puis tu es revenu un peu sur le Norlinder et tout ça. Tu voulais revenir un peu sur le match de samedi, rapidement. Ouais. Tu m'as dit ce matin, je vais expliquer pourquoi la défaite de samedi est acceptable. Tu sais, habituellement, une défaite, c'est pas acceptable, mais là, celle-là est acceptable, puis tu veux nous expliquer pourquoi.
Pour reprendre les propos de notre collègue Guy Boucher, là, qui va joindre à nous autres un peu plus tard, il n'y a pas de victoire morale, c'est pas une ligue de développement, il n'y a aucune défaite qui est acceptable, mais je veux remettre ça en contexte. C'est sûr que d'aller chercher un point supplémentaire, là, puis là, je vais utiliser un peu de sarcasme. La dernière affaire que tu veux obtenir dans cette saison-là, c'est le 11e choix au total, puis être obligé de l'envoyer dans l'Arizona, parce que c'est l'entente que tu as dans l'échange qui t'a amené Christian Dvorak. Fait qu'idéalement, tu n'en récoltes pas trop de points de perdant quand tu vas perdre des matchs. Mais la façon dont le match a été disputé, de la manière dont cette équipe-là s'est présentée, avec des effectifs plus que réduits, à l'étranger où ils connaissent peu, pour ne pas dire pas de succès, et de la façon dont on s'est battu et débattu, au niveau de la robustesse, mais au niveau de l'allure de la rencontre, voir l'autre équipe marquer le premier but, la pénalité en partant le match, tu mets tout ça ensemble, tu regardes les joueurs qui ont bien joué, qui se sont levés, et là, tu te rends compte rapidement que les jeunes joueurs ont mérité chaque seconde qu'ils ont passé sur la patinoire. Je sais qu'on en a passé la semaine dernière, puis je frappe tout le temps sur ce même clou-là. Je ne veux pas avoir l'air de l'enregistrement qu'on fait jouer en boucle, mais la réalité, c'est que tu ne peux pas te tourner 100% vers ta jeunesse. Elle doit être imputable de par ses performances, mais surtout, oublions les performances, la constance, ça vient avec l'expérience, mais surtout de son effort et de son niveau d'engagement. Puis j'ai adoré le match de plusieurs joueurs, chacun selon leurs attentes, que ce soit Pezzetta au niveau de la robustesse et de l'implication, que ce soit Suzuki qui a joué un vrai bon match à l'étranger, Poehling et Caulfield qui ont montré des signes encourageants, Romanoff aussi qui a pris du galon, bref.
Ouais.
J'ai vraiment apprécié de la façon dont le Canadien s'est comporté. En unité de groupe, on peut rajouter Kulak là-dedans, mais là, je vais plus me concentrer sur les jeunes. Alors, c'est pour ça que je dis que cette défaite-là, elle est acceptable dans la saison qu'on connaît. Puis, il n'y a personne dans l'organisation du Canadien qui peut dire ça, là. On s'entend là-dessus, là. Mais moi, j'ai le droit de le dire, j'ai un pas de recul, je ne suis pas dans l'organisation. Puis, j'étais comme observateur à 100%, là, puis c'est un match que j'ai apprécié regarder à la télé samedi soir avec une coupe de vin.
Oui, surtout avec la coupe de vin. Mais, je suis d'accord avec toi, puis... on veut pas trouver d'excuses. Mais d'ici à la fin de l'année, il faut comprendre que je pense que 70 millions sur 90 qui ne jouent pas. Dans la formation, présentement, il y a trois gars qui font 4 millions et plus. Il n'y a personne qui gagnerait ces matchs sans ton gardien de but numéro 1, etc. Mais dans le département de l'EF, le Canadien a même pris les devants dans ce match-là. Jake Allen, ça fait au moins 4 départs solides qui nous donnent où ce que le Canadien pourrait une performance d'un gardien de but assez solide pour l'emporter. Mais tu sais, de voir Caulfield pu être pris face au meilleur duo de défenseurs adverses, ça l'aide. Romanov, j'aime tout ce qui est désir, vouloir, intention, tout est bon, mais je l'aimais mieux à 16-17 minutes. Là, on retourne dans les minutes où ce que c'est un peu trop, mais on ne peut pas rien dire de critique. Fait que si les gens sont capables de vivre avec ce qui se passe présentement puis d'apprécier, comme toi, tu l'as parlé avec un verre de vino, on va finir une saison comme il faut au lieu d'être en maudit à partir de décembre jusqu'au mois d'avril.
Tu sais, Martin, tu amènes un point intéressant. La différence entre le disons qu'on va prendre 17 là, comme temps de référence, mais la différence entre le 17 et le 21 minutes, par exemple, bien, c'est d'être capable de vivre avec les erreurs qui vont être commises dans ces 4 minutes supplémentaires-là où il va peut-être jouer un petit peu plus en infériorité numérique ou il va peut-être jouer un petit peu plus contre l'unité principale de l'autre côté. Moi, c'est comme ça que je le vois. C'est comme ça que j'ai envie que ces jeunes-là se développent. Pas... Tu sais, je veux que Suzuki joue un match de même puis qu'il y ait de la glace. Pas qu'il joue un match ordinaire, mais qu'on lui donne la glace parce qu'il n'y en a pas d'autre. Tu sais, moi, je l'ai appris de deux façons, puis je l'ai appris plus tard dans ma carrière. J'aurais aimé ça le savoir en partant, Moi, j'ai pas de regrets, mais j'aurais aimé ça le savoir en partant. Deux choses. La première, c'est que tu vas être devant le filet. En tout cas, tu vas être utilisé, pas parce qu'il n'y en a pas d'autre. Tu vas être utilisé parce que tu le mérites. Bien, j'espère que j'ai accompli ça, même si je n'ai joué 77 ou 76. Pas parce qu'il n'y en avait pas d'autres, parce que je le méritais d'être là, même si on n'avait pas des grosses équipes. Mais l'autre chose que j'ai appris, puis qui a peut-être été une des leçons les plus importantes, parce que moi, je le savais pas, OK? Quand j'étais dans les rangs juniors, ben je voulais juste gagner. Puis on s'est rendu à la finale la Coupe du Président, on s'est rendu à la Coupe Memorial. J'ai gagné deux fois la médaille d'or. Je suis arrivé dans la Ligue américaine, paf, on gagne un championnat de la Ligue américaine. Fait que moi, dans ma tête, là, il y avait juste ça gagné. C'est tout ce que tu faisais. Puis là, je suis arrivé avec le Colorado. Mais un gars qui s'appelle Patrick Roy, je ne sais pas si vous en avez déjà entendu parler. Jeff Gorton, il a dit qu'il m'avait entendu parler brièvement. Je suis arrivé avec un gars comme Patrick Roy. Puis lui, Patrick, là, c'est pas compliqué, il en gagnait 3 sur 4. Mais celui qui perdait, là, ça se pouvait que si après deux périodes, il voyait que ça allait pas, là, ça se pouvait que la chaîne débarque. Mais ça, moi, là, quand je suis arrivé à Columbus, on pouvait pas se permettre ça. Puis moi, je pouvais pas me permettre ça comme jeune gardien, mais on pouvait pas se permettre ça. C'était plus important à Columbus, si tu perdais 3-1 après deux périodes, que tu perdes 3-2, que la chaîne débarque puis que ça soit 5-1. C'est une défaite, c'est une défaite. Moi, je voyais ça comme ça. Mais c'est pas vrai. Il y a une façon de faire. Parce que quand tu le fais de la bonne manière, puis c'est pour ça que je disais que c'est une défaite acceptable. Fait que je l'ai appris. J'étais peut-être rendu à 24 ans, puis là, je commençais à devenir un gardien de but numéro 1. Fait que si les jeunes, ils peuvent l'apprendre, les jeunes qui sont là avec les Canadiens en ce moment, peuvent l'apprendre avant, ils vont être prêts plus rapidement à prendre sur leurs épaules, cette équipe-là et l'amener vers où on pense que ce groupe de jeunes-là peut le faire. C'est la première fois depuis longtemps que tu as un groupe de jeunes qui est capable de grandir ensemble, mais grandir de la bonne façon. Là, je vais faire encore une fois, je vais utiliser un peu, une petite pointe, là, une petite pointe acide, là, mais parce que si tu fais juste donner ton équipe à tes jeunes, c'est pas long que tu deviennes les Sabres de Buffalo ou les Oilers d'Edmonton. Pas les Oilers de cette année, mais les Oilers qui ont essayé de grandir avec nombre de choix dans les deux puis dans les trois premiers puis qui n'ont jamais été capables de le faire.
Très bon point. Puis quand tu regardes la formation, Marc, puis je pense qu'on va montrer là, la formation du Canadien pour le match de ce soir. Tu sais, on n'a pas le choix d'être résilient. Tu sais, vite comme ça, là, tu sais, devant le filet, il te manque Price. Regarde la défensive, là, honnêtement. Là, tu sais, c'est comme OK. Après ça, tu regardes en avant. Oh, boy, boy. Tu sais, la quatrième ligne, là, c'est ça. Donc, tu sais, à un moment donné, tu n'as pas le choix d'être résilient.
Trois gars en haut de 4 millions.
C'est ça. Tu sais, honnêtement... Hey,
mais on peut-tu s'entendre?
On est passé l'étape d'être fâché.
Non, mais on peut-tu s'entendre sur quelque chose? On peut être négatif puis dire on va en manger une tête. OK? Ça, c'est être pessimiste. On peut être optimiste ou positif puis dire ah, ces gars-là vont tous jouer au-dessus de leur tête puis on va leur en sacrer une tête. Mais on peut-tu être réaliste puis dire... cette équipe-là, là, est quand même capable de se présenter sur la glace puis de compétitionner. Maintenant, Advienne que pourra, si Victor Hedman, qui est probablement mon défenseur préféré, mais quoi que Cale Makar, il est en train de me faire changer un peu, vous le but qu'il a marqué hier contre les Flyers, c'est pas de bon sens. Mais si Victor Hedman, puis Steven Stamkos, puis Alex Killorn, puis Anthony Cirelli prennent le match, bien là, tu te dis, regarde, leurs meilleurs, qui étaient déjà meilleurs que les nôtres, ont juste mieux joué, bien, ça sera ça. Puis Vasilevski, ils arrêtent tout, puis tu perds 4-0, ça sera ça. Mais on peut-tu s'entendre, puis être réaliste, puis dire cette équipe-là est capable de faire preuve de résilience, de saisir l'opportunité, puis de travailler, comme ils ont fait à Nashville.
Hey, Marc, juste avant que Martin embarque, là, juste pour s'amuser, Valérie, notre réalisatrice, vient de me dire, j'ai un tableau de la formation du Canadien lors de la finale de la Coupe Stanley, dans le cinquième match. Et tous les petits points rouges sont plus là. Tu sais, quand ils sont pas là ce soir. T'sais, là, c'est la première fois qu'on affronte le Lightning depuis. Regarde ça, là. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Il y a 12 joueurs qui sont plus là. C'est incroyable.
4 attaquants, 3 défenseurs, dans le fond. Parce que même le gardien de but, là, c'est pas le bon. Fait qu'il reste 4 attaquants, 3 défenseurs.
Hey,
c'est en plein ça, parce qu'Allen était l'auxiliaire. Puis tu retrouves 3 de tes 4 attaquants au sein des deux premières unités maintenant. Là, je sais qu'Evans, Lekkonen et Suzuki ne devraient pas jouer ensemble nécessairement ce soir, mais tu sais, c'était trois gars de confiance avec un jeune qui essaie de percer. Romanov, Kulak représentait le troisième des autres défenseurs. Tu sais, il te manque trois de ton top 4 à la défense aussi, puis ton gardien numéro 1. Juste avec ça, tu devrais déjà dire c'est quelque chose, mais tu sais, là, je vais attirer votre attention, puis là, c'est correct, là. Non, mais tu sais, je vais attirer votre attention puis dire, ben oui, mais on regarderait la formation en finale du Lightning, puis tu te rends compte rapidement qu'il a quand même fallu y aller avec certaines modifications. Gourde est rendu à Seattle.
Ah, c'est sûr.
Goodrow et Coleman, on n'a pas pu les retenir. Fait que là, ben ton quatrième trio, c'est, tu sais, c'est pas des gars que tu identifies comme étant très rapides, là, Maroon, Belmar et Corey Perry, même si Corey Perry, on l'a adoré à Montréal, puis qu'il a inscrit 4 buts à ses 5 derniers matchs pour le Lightning, alors que le Lightning a vraiment besoin de sa profondeur. Évidemment, ce qui saute aux yeux, c'est l'absence de, bon, Kucherov, on ne fera pas le saut, là. Cette équipe-là joue sans Kucherov, mais il va sûrement revenir pour les séries. Mais cette équipe-là joue sans Kucherov et sans Braden Point. Alors, tu sais, je vous ai parlé d'Edman, on peut y revenir, mais Stamkos a une saison hors norme et on dirait qu'il a un élan de jeunesse, mais c'est Killorn et Cirelli qui, pour moi, là, battent la mesure du côté du Lightning en ce moment.
Absolument. Puis tu sais, t'as beau perdre les joueurs que tu veux, mais quand tu réussis à garder Vasilevski, Edmund, McDonough, Sergachev dans ton corps défensivement. Tu sais, puis en début de saison, Marc, tu le sais, je le sais que tu fais ton classement des gardiens de but. Tu le sais que le Lightning jouait croche en temps puis que Vasilevski l'a sauvé le derrière énormément souvent. Fait que ça change la date. Mais regarde, il y a plein de choses à jaser puis d'avoir du plaisir avec. Parlons-en. Ouais. Du côté des blessures, le manque de leadership. Moi, je l'ai déjà dit, je vais le répéter. D'amener Dominique Ducharme devant les médias tous les jours, deux fois par jour, on y rend pas service parce que le monde... Il n'y a pas un coach qui va passer à travers. Le monde dit qu'il est redondant, il dit les mêmes affaires. Ben oui, mais c'est parce que... Il y a des blessés. Qu'est-ce que tu veux qu'ils disent? Comme qu'il dit, entre coacher là et coacher junior, tu aimes bien dans la Ligue nationale de hockey puis de prendre tout ce qui s'en vient vers toi comme un défi et non pas comme une menace, comme dirait Guy. T'sais, de dire, regarde, on fait ce qu'on a, mais de le mettre là tous les jours, je pense pas qu'on rend service à qui que ce soit comme coach. Hein.
OK. Je ne savais pas que tu allais me parler de Dominique Ducharme. Moi, je voulais plus te parler des blessures là-dessus, Martin, parce que. Tu sais, il y a une chose, OK, puis parfois j'essaie dans le match, puis là, à cette heure, 7 secondes entre deux sifflets, j'ai même pas le temps de toutes les nommer, les blessures du Canadien, quand j'ajoute celles de Byron, Price et Weber, entre autres, là, qui sont absents à long terme. La réalité, c'est que ce qui te fait mal, là, en anglais, on dit « face value », c'est pas juste la valeur intrinsèque de l'absence de ces joueurs-là au niveau de la qualité de tes joueurs, OK? Parce que là, t'as fait allusion, Yannick, en partant, d'une équipe qui ressemble plus à celle du Rocket qu'à celle du Canadien. Tout ça est vrai. Mais au-delà de la qualité des joueurs, c'est la qualité des individus qui te manquent. Parce que là, je viens de le dire, là, puis là, j'essaie de relier les deux points ensemble. J'essaie de faire une liaison habile là-dedans. Là. C'est que, tu sais, je viens de dire, tu peux pas juste donner sur un plateau d'argent et offrir cette équipe-là à des jeunes en leur donnant du temps de glace qu'ils méritent, qu'ils ne méritent pas parce qu'il n'y en a pas d'autres. Mais là, en ce moment, t'en as pas d'autres. T'as pas tes joueurs. C'est ça qui fait mal pour moi. T'sais, tu viens de parler de Dominique Ducharme, c'est ça qui fait mal. C'est que t'as pas le leadership pour l'encadrer. T'sais, Byron, on s'entend tous, il y a peut-être une autre blessure, il aura peut-être pas gagné en vitesse et en impact dans la formation, mais c'est un gars qui est respecté. C'est un gars qui va débattre. C'est un gars qui va représenter ses joueurs. C'est le représentant, à moins que ça ait changé, auprès de l'association des joueurs. C'est un être qui est respecté dans le vestiaire, il a été réclamé au ballottage, il a fait sa place dans la Ligue nationale de hockey, il a un A sur son chandail. C'est un exemple parmi tant d'autres. Edmundson, c'est un leader. Weber, on n'en parle même pas, tout le monde le sait, l'homme montagne. Carey Price, de par sa présence et sa prestance. Je viens de te nommer 4 gars là, qui améliorent ton équipe, mais améliorent l'encadrement aussi envers tes jeunes. Fait que ça fait mal. Puis quand on sait qu'on est à l'ère du plafond salarial, tu ne peux pas aller en rechercher d'autres. Est-ce que la perte de Perry fait mal? Oui, absolument, parce qu'il faisait à moindre coût. Mais il a choisi d'aller à l'aréna avec des gougounes d'un pied puis de le faire où il n'y a pas d'impôts pour 2 ans au lieu de faire juste 1 an à Montréal avec ses bottes d'hiver. Tu sais, ça, il faut que tu respectes ça un moment donné. Mais c'est un peu le côté pervers de dire « tant mieux, il y a des blessures, c'est pas grave, la saison est perdue, on va donner du temps de jeu à des jeunes qu'on n'aurait pas vus sinon, vrai. » Mais ce qui fait très mal à une organisation, c'est quand tu n'es pas capable d'avoir tous ces joueurs blessés-là et qu'ils représentent autant au niveau du leadership. Puis là, je vais terminer là-dessus, là. C'est une longue intervention, mais tu sais, c'est qu'à un moment où tu as besoin d'énergie, tu perds Gallagher et Anderson, qui sont les deux qui t'en apportent probablement le plus. Fait que tu sais, tu mets ça bout à bout, là, puis c'est ça qui manque un peu. Tu sais, oui, Pezzetta va t'en amener, mais tu sais, selon son niveau. Fait que c'est là où les blessures sont.
Je vais juste rajouter quelque chose là-dessus. Tu sais, mettons, l'an passé, quand, ou il y a deux ans, on perdait Drouin puis Byron. On disait, l'identité du Canadien, c'est la vitesse. Tu viens de perdre deux personnes qui sont dans ton identité. Là, quand tout le monde est blessé, on va te dire une affaire. L'identité, je présume, je ne sais pas, tu me diras comment ça marche. Tu n'en as même plus d'identité. Tu ne sais plus si c'est une équipe de vitesse, si c'est une équipe de possession. On ne le sait plus, là, parce qu'il reste quatre gars.
Bien, c'est que ça va migrer. Ça va migrer vers... Tu sais, toute équipe qui a beaucoup de blessés, ça va migrer vers une équipe qui est plus impliquée, qui travaille plus fort. Mais là, tu perds deux de tes gars qui travaillent plus fort. Tu sais, tu perds Gallagher et Anderson.
C'est ça.
Tu sais, c'est... Fait que ton point, il est bon, Martin. Moi, je le voyais différemment. C'est pas vrai que t'as plus d'identité. Ça, c'est le travail. Ça, c'est le travail du personnel d'entraîneur. À dire, OK, on peut migrer un peu. Mais c'est sûr que remettre tout le monde dans le line-up, dans la formation. Tu sais, c'était quoi l'identité du Canadien? Hey, personne ne voulait venir jouer dans ton territoire. Le top 4, il est gros, il est fort, il frappe. Puis là, t'as Romanov un an plus vieux. Puis t'as Savard, tu te dis, hey, c'est ça l'identité de cette équipe-là. Tu sais, les défenseurs, si personne ne veut venir jouer dans ta zone, les défenseurs, c'est très difficile à les affronter. T'as Price qui est là en plus. Puis là, tu sais, on va aller profiter après ça en avant de l'intelligence au jeu de Toffoli, l'ardeur de Gallagher, la présence physique d'Anderson. T'as rien de ça dans ta formation. Alors, tu sais, encore là, je cherche pas des excuses. Mais ton point est pertinent, mais c'est que là, quand ton identité migre, puis que ta nouvelle identité vient prendre un dur coup parce que Gallagher et Anderson ne sont plus là, ben t'as le résultat qu'on connaît, ce qui veut pas dire que cette équipe-là ne peut pas répéter ce qu'ils ont fait à Nashville. On verra le résultat à la fin du match. On se lèvera la tête pour regarder le tableau indicateur tantôt, mais là, pour l'instant, on va le faire de cette façon-là. On va travailler. Ça, par exemple, c'est quelque chose qui est encore à la portée de cette équipe-là et de ce personnel d'entraîneur-là qui, soit dit en passant, aurait des gommettes dans son cahier s'ils sont capables de faire jouer cette équipe-là avec ardeur à tous les soirs. Versus un nouveau boss.
Tout à fait,
Marc. Versus un nouveau boss.
Oui, oui, tout à fait. Mais oui, bien oui, c'est sûr. Lui, il va prendre des notes. Lui, il a commencé le jour 1 la semaine passée. Là, ce qui s'est passé avant, il s'en fout. J'ai envie de... Marc, je te pose une question. Puis là, ça va nous amener vers la pause. Il reste à peu près 50 secondes. Dominique Ducharme m'a dit qu'il n'avait jamais vécu une situation comme celle du Canadien cette année au niveau des blessures et absences. As-tu déjà vécu de quoi de similaire avec une de tes équipes? Peut-être pas autant, là, parce que c'est catastrophique, mais as-tu déjà vécu ça, tu sais, une hécatombe là, de joueurs absents, de joueurs manquants?
Pas vraiment. Tu sais, dans la Ligue américaine, des fois, il y a des histoires là, que je pourrais te raconter, surtout à l'époque des années 90, là, où tu perds tellement de gars, tu as des blessures, tu vas partir un match, puis tu n'as même pas assez de gars dans l'autobus. Fait que tu attends que tu as sorti un gars de la retraite, tu attends qu'il arrive dans l'autobus pour t'en aller jouer à New Haven un match. Là. Mais dans la Ligue nationale, pas à ce niveau-là. Puis tu sais, Dominique Ducharme, la semaine dernière, a essayé de faire une pointe d'humour là-dedans, là, mais tu sais, c'est parce que là, tu te dis, on en récupère trois, on est plus trois, on en perd deux à COVID, on est juste plus un, puis là, tu en perds un autre, puis à tous les matchs, c'est comme ça. Fait que ça, je l'ai jamais vécu à ce niveau-là.
OK. En allant vers la pause, salutations à plusieurs personnes sur le RDS.ca, la section On jase. Hugo Leblanc, il dit, comme dirait Guy, souvent, tu es à deux joueurs d'être une bonne équipe, mais là, on est à 14 blessés d'être une bonne équipe. C'est le cas de le dire. Salutations à Maxime Saint-Jacques. Les gens de la télé, on vous laisse aller au grand titre. On poursuit sur le web. Les gens ont réparti, les gens sont bons. Ben oui, les gens sont bons.
Hey,
Marquez qui parle d'un commentaire que Marc a fait en disant que Guy va l'aimer celle-là, le côté leadership. Guy en parle souvent des intangibles, du leadership, etc. Pete Robert qui est toujours présent également. Alain Bélanger, salutations. David Saint-Laurent, Gaétan Beaudoin, Richard Delisle également, salutations. Sébastien Nadeau. Salut à Jean-Luc Pigeon qui dit qu'il a hâte de voir Schoeneman dans la Ligue nationale d'hockey. Il disait qu'il y avait une belle progression à Laval. D'ailleurs, on va parler de ces jeunes-là qui vont avoir une chance. Marc, si tu veux bien, Laurent Dauphin qui en sera à sa, je pense, quatrième tentative avec le Canadien. Lui qui a été déjà rappelé, mais qu'on ne l'a pas joué, que ce soit à cause de la COVID ou à cause du match de Nashville. Et Cale Clagg, peu importe comment tu veux l'appeler. Je suis convaincu que tu as fait tes devoirs également. Celui parmi nous de Laurent Dauphin et du nouveau venu, Cale Clagg, lui.
Clagg, c'est la façon dont lui-même le prononce, Cale Clagg. Vous irez voir, là, notre ami Patrick Friola a mis une vidéo là, en ligne sur de Paul Byron. On parlait de leadership. Là, Paul Byron, qui commence à ressembler à un entraînement de joueur de hockey. Là. Ça ressemblait à de la réadaptation, la réhabilitation. Là, ça commence à ressembler à, ouais, ça commence à ressembler à un joueur de hockey qui se prépare et qui a peut-être encerclé une date sur son calendrier à quelque part en 2022. Dans le cas de Cale Clark, ben, tu sais, ça va être quand même un moment jalon. Là. Puis là, une histoire riche d'une équipe qui a 105 années. Je vais me calmer un peu, mais un moment jalon parce que ça représente quand même la première décision au niveau du personnel de la part du nouveau vice-président exécutif aux opérations hockey, Jeff Gorton, qui a réclamé son nom au balotage. J'ai comme l'impression que Dominique Ducharme a peut-être eu son mot à dire parce que à l'instant de deux tournois internationaux au championnat du monde junior, la première année pour aller chercher une médaille d'argent, la deuxième année alors qu'il avait un A sur son chandail pour Dominique Ducharme dans la conquête de la médaille d'or, Clegg a été un de ses défenseurs. C'est un défenseur avec un gabarit, je vais dire un gabarit moyen, parce qu'aujourd'hui, c'est plus un petit gabarit, c'est l'UTT dans les années 90, comme je vous parlais tantôt, mais il est quoi, à peu près 5'11", 6 pieds, 170, 175 livres. Alors, c'est un gabarit moyen, mais c'est un défenseur qui a toujours, surtout avec les Wheat Kings de Brandon, été un très, très bon initiateur de sortie de territoire, bon en transition. Pas juste offensif, là, mais c'est une de ses qualités premières. Moi, je l'avais apprécié, là, je vous le dis, au match que le Canadien a joué à Los Angeles, j'avais apprécié ce qu'il avait été capable d'apporter. Maintenant, avec le retour des Doughty, des Walker, je ne suis pas sûr que c'était assez démarqué pour dire « moi, je joue dans la Ligue nationale à tous les jours ». Bien là, c'est le défi qu'il a, puis cette audition-là va se prolonger avec le Canadien parce que la nomenclature des blessures, là, bien, il y a de la place, puis il risque d'avoir du temps, surtout avec la décision très judicieuse qu'on a prise dans le cas de Norlinder pour qu'il s'adapte au style de jeu nord-américain. Alors voilà pour Clegg. Tu sais, soyons honnêtes, là, s'il est capable de rencontrer chacun des aspects que Wideman, par exemple, est capable de rencontrer jusqu'à maintenant, mais de le faire encore mieux en défensive à 23 ans, je pense qu'on a une réponse. Là, tu sais, Wideman n'aurait été que de passage à Montréal, mais là, pour l'instant, on ne peut même pas parler de discarter Wideman au moment où on se parle à cause des blessures. Mais moi, je pense que ça peut être une amélioration. Ça peut faire un pont. Tu sais, Caden Goulet, en possession de la rondelle, c'est là où je veux voir une amélioration. Notre collègue Greg Button à TSN nous disait ce matin qu'il devrait être nommé le capitaine de l'équipe nationale junior. Moi, je suis d'accord. Lui qui est passé maintenant au Oil Kings d'Edmonton dans la Ligue de l'Ouest, Caden Goulet va faire partie de l'organisation du Canadien. Enfin, en fait partie, mais va faire partie de l'équipe de la Ligue nationale du Canadien avant longtemps. C'est un autre gaucher. Alors, on est en train de bâtir tranquillement, pas vite, l'après tous ces joueurs qui sont dans la trentaine. Puis, et qui sait, peut-être qu'après la date limite des transactions, Sherrod n'y sera même plus. Alors, voilà dans le cas de Clegg, c'est ma longue évaluation de Clegg. Puis, si vous voulez, on peut parler de Laurent Dauphin aussi.
Ben vas-y, Marc. Après ça, j'irai avec des salutations sur Facebook.
Ouais, ben moi, j'ai trouvé intéressant que Laurent Dauphin nous parle d'exemples près de lui, en Alex Burrows et en Michael Bunting, comme étant des joueurs qui ont amorcé leur carrière dans la mi-vingtaine dans la Ligue nationale de hockey puis qui y sont restés. Tu fais bien de le mentionner, Martin. Rappelez-vous que lorsque le match a été annulé pour le Canadien, je pense qu'il allait disputer son premier match en uniforme du tricolore lors de la pandémie. Et il y a eu des matchs reportés, bref. Et là, la dernière fois, il a été rappelé sans même jouer un match. Il a été recédé à nouveau à Laval. Alors, c'est une première opportunité. Ça fait près de 3 ans qu'il n'a pas joué dans la Ligue nationale de hockey. Il l'a fait avec l'Arizona à la hauteur d'un peu plus d'une trentaine de matchs. Il connaissait un bon début de saison. Il a déjà 11 buts dans la Ligue américaine de hockey. Il est capable de contribuer. Je pense qu'il a figuré des choses depuis ses jours chez les juniors. Il a déjà été capitaine des Saguenay de Chicoutimi, entre autres. Je pense qu'il a compris bien des choses avec son parcours dans la Ligue américaine, son parcours chez les professionnels, à Toussaint, entre autres. Puis, j'ai hâte de voir ce qu'il est capable de donner. Moi, je pense que ça peut être une belle histoire. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire que c'est un joueur de la Ligue nationale à tous les jours. J'ai besoin, je le répète, j'ai besoin d'un échantillon plus grand que ce que je connais et ce que j'ai entendu de lui aujourd'hui.
OK, on va surveiller ça ce soir, puis on aura l'occasion d'y revenir, notamment nous demain, avec le joueur électrisant Ford dans le cas de Clegg. Ah. Salutations sur Facebook à Sylvain Lapierre. Salutations à SP Goulet également. Il y en a plusieurs qui ont commenté. Serge Boily qui dit « Si le Canadien n'avait pas eu autant de blessés, il serait probablement dans la course encore. » Anthony Brassard, que l'on salue également. Éric Villemaire qui dit « Vous n'avez pas parlé de la situation de Bob Gainey. » On pourra peut-être glisser un petit mot, Marc, en accueillant Guy tantôt. Et des salutations à Charles Coderre, Guillaume Richard, Matt Laplante-Bergeron, Éric Rioux, Marie-Lou Boutotte, Claude Girard-Bélanger. Bref, vous êtes nombreux sur Facebook, sur les pages de On Jase et les pages de RDS, tout comme le RDS.ca. On va permettre aux gens de la télé de revenir. On va se joindre également avec Guy Boucher pour poursuivre la discussion. On va parler de Bob Gainey brièvement. Bon, Marc, juste avant d'entrer Guy avec nous, il y a quelques personnes là, qui t'ont posé la question, qui voulaient t'entendre. Puis là, je recherche le dernier là, qui t'a posé. Voilà, c'est Éric Villemaire qui dit « Pouvez-vous me clarifier qu'est-ce que Bob Gainey va apporter aux Canadiens comme conseiller? Quel sera son rôle? » Donc, Marc, je te laisse en parler. Martin, si tu veux commenter aussi, puis par la suite, on va accueillir Guy pour parler du Lightning.
Tu pourrais même rentrer Guy si tu veux, parce que Guy connaît Guy. Il l'avait engagé, il l'avait côtoyé quand il travaillait pour, pour les Bulldogs d'Hamilton. Si on pourrait avoir. Guy connaît également, pas Guy, mais Denis aussi. Marc, voyons, la misère avec mes noms aujourd'hui. Marc aussi, il le connaît très bien. Bob Gainey. Vas-y, Marc. Salut, Guy.
Bonjour.
Salut, Guy.
Salut, Guy. Bonjour. La seule saison que j'ai joué dans l'organisation du Canadien, c'était Bob Gainey qui était le directeur général. Je le connais un peu comme ça. Pour répondre à la question directement, pour l'instant, il sera conseiller auprès de M. Molson et Gorton pour aider à identifier les candidats disponibles. Je présume qu'il fera partie du processus d'entrevue. Évidemment, quand tu as été joueur, capitaine, DG, entraîneur-chef d'une équipe, je pense que ça te qualifie amplement pour... comme connaissant le marché en tant que tel. Puis il ne faut pas oublier qu'il a roulé sa bosse longtemps dans la Ligue nationale de hockey également. Alors, c'est ce que l'on sait jusqu'à aujourd'hui du rôle de M. Gainey dans tout le processus. Mais effectivement, Bob était également le DG lorsque notre collègue, M. Boucher, a remplacé. Guy, as-tu remplacé Don Lever et Ron Wilson comme entraîneur des Bulldogs? On s'est-tu manqué juste d'une saison, nous autres?
Oui, monsieur. J'avais entendu parler beaucoup de toi après parce que tout le long, il me disait tout le temps à toi, tu te serais bien entendu avec Marc. Je te connaissais pas, fait que je...
Ah, c'est bon.
Oui, mais je l'ai entendu même plusieurs fois par différentes personnes du staff. Puis ils me le disaient pas ensemble. Là. C'était vraiment une opinion unanime sans se consulter. Fait que je sais pas pourquoi ils disaient ça, là, mais c'est ça.
Et le hasard a fait qu'on jase vous réunit quelques années plus tard.
C'est ça. Je présume que c'était positif, mais juste une petite anecdote, puis Guy, je vais te laisser aller là-dessus sur Bob Gainey, mais écoute, il y a eu beaucoup de remaniements, tu sais, Carbo a perdu son emploi avec le Canadien, Bob Gainey est devenu entraîneur, Don Lever a été, en fait, est parti d'Hamilton, est allé rejoindre Bob Gainey derrière le banc, Ron Wilson, qui était l'entraîneur adjoint, que j'ai jamais entendu un gars crier de même sur un banc d'une équipe de hockey de ma vie, passait sa game à crier à partir de la mise en jeu initiale jusqu'à la fin, ce qui ne veut pas dire que c'était un mauvais gars. Puis c'est mon collègue aujourd'hui à la radio TSN, Sergio Momesso, qui était venu en aide comme entraîneur adjoint pour finir l'année. Mais tu sais, je veux dire, tu sais, soyons honnêtes, là, quand Julien Brisebois venait à Hamilton, il mettait les coachs dehors, puis on s'assoyait lui et moi dans le bureau, puis là, il voulait des nouvelles des jeunes, puis comment ça allait, puis David Desharnais, puis Ryan White, puis Russell, puis qu'est-ce que je pensais d'un tel, puis comment Sergei Kostitsyn s'était comporté. Fait que là, écoute, je voulais pas vous ramener des noms du passé. Fait que il y a peut-être un petit peu de tout ça là-dedans.
C'est mes noms, c'est tous ceux que j'ai coachés, ça. C'est tous les noms que j'ai coachés.
Exact, puis c'est sûr que le personnel, là, au niveau du staff médical puis d'équipement, tu sais, quand t'es un vétéran qui a passé 10 ans en Ligue nationale, puis t'es plus proche en âge du staff d'équipement puis médical, hein? J'étais rendu à 32 ans, j'étais plus proche d'eux autres des fois que des jeunes qui venaient passer... qui venait prendre une tasse de café puis jouer 2-3 matchs. Fait que peut-être c'est pour ça qu'il disait ça, qu'on serait bien entendu.
C'est la même âge que Mathieu Darche avait là, l'année d'après, finalement. Là, ouais.
Guy, Bob Gainey, tu l'as connu.
Bob, oui, je l'ai adoré. Honnêtement, quand ils m'ont engagé, c'était Bob et Bob Gainey puis Julien Brisebois, avec qui j'avais fait l'entrevue. Puis tu sais, ça avait cliqué tout de suite. Là. Et puis, c'est drôle parce que... T'sais, les gens qu'ils ne connaissent pas, même ceux qu'ils connaissent, c'est un monsieur qui a l'air très, très, très calme, qui souvent parle pas. Puis même, on m'avait dit « Oh mon Dieu, tu vas travailler Bob Gainey, c'est aussi le fun qu'avoir un traitement de canal. » Fait que ça... Fait. Ouais, fait que là, moi, écoute, je m'attendais à ça, là. Je m'attendais à un traitement de canal, là, que finalement, tu sais, t'es assis, puis il n'y a personne qui dit rien, puis tout ça. Puis, écoute, le contraire total, c'est la même chose avec Scotty Bowman. J'avais demandé à Steve, parce qu'il restait pas loin de chez nous, en Floride, puis moi, tu le sais, je prends le téléphone, je rencontre tout le monde que je peux, fait que j'ai dit, tu penses que je pourrais m'asseoir avec Scotty Bowman? Puis Steve Eiserman, tu sais, il est resté marqué par Scotty, là, parce qu'il l'a eu comme coach, là. Fait que c'est pas des relations comme aujourd'hui, là. C'est des relations très tendues, très difficiles dans ce temps-là. Puis Scotty, il était très distant et très... disons qu'il jouait sur la psychologie, disons. Puis il y avait beaucoup de... Les gars avaient vraiment peur de lui. Et puis, dont Steve Eiserman, c'était un peu bizarre, parce que c'est Steve Eiserman qui a peur, là, mais les gars étaient tous pareils, puis quand il me parlait de lui, là, tu le voyais, là, il m'a dit, Gargui, je veux juste te mettre en garde, tu vas l'appeler, mais ça se peut bien qu'ils veulent pas te parler, puis tu sais, là, j'étais là, mon Dieu, ça va être beau, ça, puis je l'appelle, ben oui, j'ai été voir tes games, j'aime comment tu coaches, blablabla, là, on est allé manger, j'ai été peut-être 3-4 fois manger avec, puis écoute, je te parle de l'arrêter de parler, il arrêtait pas tout le long. Fait que moi, c'est des moments extra. Ben oui, même avec moi. Ben oui, parce que moi, j'ai mon crayon, mon papier. Je suis pas en mode comme là, puis c'est moi qui parle, puis il enseigne. C'était le contraire. Moi, je prenais tout ce que je pouvais prendre. Et puis Bob Gainey, c'était la même chose. Et, écoute, il venait me voir, on s'assoyait, on jasait de l'équipe, on jasait de la vie. Puis écoute, des heures de temps avec Bob Gainey, j'ai adoré ça. C'était un monsieur exceptionnel. Puis ce que j'aime de lui, c'est qu'il faisait jamais rien pour qu'est-ce que ça avait l'air. Tu sais, quand tu es un dirigeant ou tu es un coach ou n'importe qui, finalement, tu es tout le temps conscient de ton entourage, puis tu vas faire des choses des fois pour bien paraître, mal paraître, puis ainsi de suite. Lui, là, écoute, c'était phénoménal. Un vrai de vrai. S'il pouvait prendre de la marde, même si c'était pas sa faute. Puis moi, j'ai trouvé ça triste quand ils l'ont mis dehors parce que j'ai entendu plein de choses. Puis on y attribuait plein de choses à lui alors que c'était pas vrai du tout. Puis il a pas dit un mot. Il a tout pris le blanc, mais tout. Écoute, c'est un monsieur extraordinaire. J'ai adoré parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de profondeur, mais tu ne sauras pas si tu ne vas pas scruter ça, tu vas pas. Mais moi, je suis fatiguant, là. Je vais tout le temps sonder le plus loin que je peux. Mais c'est comme ça que j'ai fait ma vie. T'sais, mon père m'a appris ça quand j'étais petit. Moi, il dit, garde, dans la vie, tu vas trouver des experts dans ce en quoi tu veux faire quelque chose, puis tu vas tout le temps trouver du pattern de succès. Puis prends le pattern de succès. Puis après ça, tu te mettras du tien après, pas le contraire. Si tu mets du tien en partant, puis après ça, tu cherches de l'aide, il est souvent trop tard parce que tu t'es perdu. Fait que ça, j'ai compris ça très tôt dans ma vie. Fait que moi, c'est ce que j'ai toujours fait. J'ai accéléré mon processus parce que je vais parler aux experts, pas un téléphone. Tu sais, j'avais emprunté 500 $ encore étudiant à ce moment-là, 500 $ pour prendre l'avion parce que j'avais réussi à avoir un numéro à Hitchcock, puis j'étais allé à Saint-Louis, puis j'ai passé 2 journées avec. J'avais même pas d'hôtel, j'avais rien, j'étais pauvre dans ce temps-là. Puis écoute, il m'avait donné une journée complète, m'a tout fait visiter, jasé tous les systèmes de ci, son expérience. Puis là, il a dit, hey, demain, t'es-tu encore ici? J'étais pas là, mais j'ai dit, oui. Puis je suis resté. Fait que j'en ai eu encore. Fait que tu sais, moi, cette approche-là, d'aller trouver les experts, puis de puiser de ce que eux autres voient, pourquoi ils ont eu du succès, bien, je fais ça avec des gérants aussi. Là. Tous les ans, national, je choisissais 2 gérants. Je choisissais 2 coachs que je connais pas. Puis je prends l'avion, je m'en vais m'asseoir avec eux autres. Puis c'est ça fait 30 ans que je fais ça. Fait que ce que ça te donne,
donc,
éventuellement...
Donc, t'es pour le fait qu'on embauche Bob Gainey comme conseiller, si je comprends bien, c'est sûr. Hey, Guy, donne-moi 2 petites secondes, le temps de... Donne-moi 2 petites secondes, je vais laisser Marc partir parce que je sais qu'il y a une grosse journée. C'était un match du Canadien contre le Lightning. Beaucoup de préparation, certainement. Juste nous rappeler tes rendez-vous. Marc, aujourd'hui, on commence à te regarder à quelle heure?
Dans la période d'échauffement, on va vous parler de Clegg qui dispute son premier match avec le Canadien. On va regarder à quel point le nouveau groupe de défenseurs doit s'impliquer aussi. Puis c'est sûr que je vais vous parler du Lightning. Puis je vous laisse en vous disant que Guy, je l'attends tout le temps d'ailleurs, le 500$ que je t'ai prêté. Salut tout le monde, bonne journée.
Salut, Salut Marc. Ah, c'est génial. J'adore ça.
Le fameux 500$, il l'attend toujours. Par contre, il y a quand même une question que les gens posent. Il y a quand même une question que les gens posent là-dessus. On veut du renouveau, on veut des nouvelles façons de penser, mais on va chercher Bob Gainey. Fait qu'il y en a qui sont irrités par ça pour conseiller. Puis il y a des gens qui pensent comme moi, comme toi, Guy, qui pensent que, tu sais, moi, je m'entourerais de 5-6... Si j'étais directeur général, je m'entourerais de 5-6 aviseurs seniors qui sont plus dans le hockey, qui ont connu de l'expérience, des fois juste pour discuter, prendre dans mon coin, là, au chocolat, mais...
Tu pourras pas avoir 5-6 aviseurs, là, tu sais, sans nommer de nom, j'en connais des comment ils s'appellent en anglais, des conseillers, là. Puis il y en a qui sont payés... Il y en a qui sont payés 400-500 000, fait que 6 conseillers, ouais, là...
C'est ça.
Tu comprends ce que je veux dire? Je crois, moi, dans on s'entoure, même si c'est des gens qui, selon plusieurs, sont dépassés, aller piquer leur brain gratuitement, hein? Tu sais, prendre l'avion pour aller chez eux gratis. Moi, je crois à ça. Mais il y a des gens qui regardent ça et qui disent, voyons donc, on est à Shea Gordon parce qu'on dit que c'est un nouveau genre. Il a parlé d'améliorer puis de rajeunir certaines choses, de faire certaines affaires. Entre autres, il a parlé des statistiques avancées qui avaient l'air assez pauvres du côté du Canadien de Montréal. Moi, je veux des nouvelles choses comme du développement. Il a même dit on a des bonnes personnes ici qui font des développements, mais il faut ajouter des gens parce qu'ils sont deux, trois. Moi, je pense que ça te prend une équipe de 8 minimum. Fait que pour aller chercher du monde pour prendre des meilleures décisions, moi, je suis pour ça dans la vie. Mais tu réponds quoi aux gens qui disent que c'est un pas de recul, c'est un pas en arrière, on retourne dans le passé avec quelqu'un qui, en plus, a perdu sa job ici?
Non, c'est très mal connaître l'homme. Moi, justement, une des choses que j'aimais de Bob Gainey, c'est qu'il pensait en dehors de la boîte. En anglais, le « think out of the box », qu'on dit. Je ne sais même pas si ça se dit en français, mais on va en faire une boîte en français. Ce que ça veut dire, c'est que c'est quelqu'un qui aimait justement sonder. Puis c'est pour ça qu'il m'aimait. La vérité, c'est que moi, j'étais connu pour ça. T'sais, je sortais des affaires bizarres, puis j'essaye. Puis parce que ma personnalité, c'est que j'adore oser. Il faut que j'ose dans la vie. La minute que je ne suis pas capable d'oser ou on ne me laisse pas, regarde, je suis très malheureux. Alors, des nouvelles affaires, c'est il adorait ça. C'est justement ça que Bob aimait. Il aimait ça, voir des nouvelles choses. Mais moi, ce que j'aimais de Bob, c'est sa perspective. Puis là, il faut faire attention à notre psyché québécois de « on passe d'un bord ». Quand il y a un changement, une transition, il faut tout le temps penser à d'un bord à complètement l'autre bord. Ça, là... Ça, c'est jamais une recette pour du succès, ça. Pourquoi? Parce que c'est pas parce qu'on veut du nouveau et on veut avancer que tout ce qui est fait n'est pas bon. Tu peux pas tout changer 180 degrés pour du nouveau, c'est impossible. Je veux dire, il y a des choses de base qui demeurent, que ce soit le Canadien, les autres équipes, la Ligue nationale, le jeu de hockey en général. Et, dans ton innovation, si tu as 10 % d'innovation, puis 20, là, tu commences à être dans l'utopie quasiment, là, de changement puis d'innovation, tu as à peu près au moins minimum 80 % des choses dans ton organisation, puis sur la glace, puis comment tu gères le monde, ça qui reste que ce que c'est. Je veux dire, c'est la base des choses. Fait que, tu sais, ton innovation, tu sais, même moi, je suis arrivé avec des systèmes nouveaux avec le temps, tu sais, le Swarm, personne ne faisait ça, Amazon Nerd, même chose, l'avantage numérique, tu sais, quand j'avais sorti le 1-3-1, moi, c'était avec Hoffman que j'envoyais dans le milieu, mais putain, je l'ai fait avec Subban en ligne américaine, mais les coachs en ligne nationale, parce qu'ils m'avaient vu avec Équipe Canada, m'appelaient. Hey, comment ça se fait? T'as envoyé un gars là, puis pourquoi ci, puis pourquoi ça? Mais après ça, ça a tout été copié. Mais sauf que quand tu regardes tous mes systèmes, c'était 10 à 20 maximum des affaires nouvelles que j'amenais. Je pouvais pas amener tout nouveau, puis réinventer à roue. Là, à un moment donné, tu as des choses de base. Alors, que ce soit Bob Gainey ou un autre, tu vas avoir besoin de conseils sur les choses de base, les choses permanentes, les choses qui sont constantes dans cette business-là, dans comment gérer du monde. Alors, ces gars-là, ils en ont tellement bu, parce qu'il n'y a pas été juste à Montréal, il était conseillé ailleurs, puis tout ça, à Saint-Louis. Puis... Alors, des fois, c'est pas nécessairement l'opinion de ce gars-là. Exemple, Jacques Lemaire l'a fait avec Lou Lamoriello. Puis là, tout le monde, tu sais, il regarde comment ça va bien avec les... avec les Islanders, mais il l'a fait avec New Jersey, puis il l'a fait aussi avec Toronto. Puis Toronto, c'est des innovateurs, là. Dubus, puis le coach qui est là, puis Shanahan, je sais, tu sais, quand je t'en ai trouvé avec eux autres, ça, c'est des grands innovateurs, mais ils avaient besoin de quoi? Ils avaient besoin de gens d'expérience, pas nécessairement pour innover, mais pour rappeler les choses de base importantes qui doivent être respectées. Et c'est pas juste que la personne a de l'expérience elle-même à l'avoir faite, c'est qu'elle en voit, puis elle en voit, puis elle en voit, et elle va être capable de te donner différentes perspectives, pas te dire tu devrais faire ça. Il va te dire, regarde, moi j'ai vu ça. Je suis pas nécessairement d'accord avec ça, je l'ai jamais fait, je suis pas sûr de mon opinion dessus, mais regarde, va te donner un exemple de ça. À telle autre place, j'ai vu ça. Après ça, j'ai vu le contraire ailleurs, voici ce que ça a donné. Fait que tu sais, si le gars il t'amène 5-6 différentes perspectives, la personne qui va prendre la décision, que ce soit Gorton ou le gérant ou le coach, ben ça lui donne plus d'options pour prendre sa décision. Fait que dans ta boîte à outils, là, t'as 3-4 marteaux, ben c'est mieux que n'avoir rien qu'un, parce que des fois, t'es pris dans un petit coin, puis t'as besoin d'un petit marteau, puis après ça, tu t'en vas au coin, puis là, t'as besoin des gros clous, t'as besoin d'un plus gros marteau. Fait que ces aides-là ne sont pas nécessairement ce qu'eux ont fait, c'est ce qu'ils ont vu, puis la perspective qu'ils peuvent te donner. C'est OK, on va innover dans telle place, mais n'oubliez pas que si on fait ça comme ça, ben voici ce que ça va faire de l'autre côté, tu sais. Puis il est très, très intelligent, Bob. Fait que pour moi, puis il connaît l'organisation. Fait qu'il va aider Gorton à connaître le marché. Ben, ça aussi, exact. Là, ça compte. Moi, je suis Gorton, là. C'est comme Martin vient de dire. Moi, je veux m'entourer de monde qui vont me faire comprendre l'environnement. Quand moi, je suis allé coacher en Suisse, écoute, je suis arrivé là, un cheveu sur la soupe, je parle pas la langue, je connais aucun joueur, je connais aucunement la ligue, je suis dans le milieu de l'année, même pas au milieu de l'année, je suis vers la fin de l'année. Écoute, je t'ai perdu ben raide. Ben, qu'est-ce que j'ai fait? Ben, j'ai pris un Canadien là-bas qui coachait en Suisse. Je l'ai pris comme assistant coach. Puis pourtant, le gars, ça faisait très longtemps. Moi, je suis un innovateur. J'aime ce qui est nouveau. J'aime ce qui est différent. Puis l'autre, c'est un conservateur total. Mais j'avais pas besoin qu'il me dise quoi faire avec mes systèmes. J'avais besoin qu'il m'explique l'ambiance, la culture, les joueurs, puis tout ça, la ligue. Alors, ça, c'était la partie que moi, j'avais besoin. Alors, Gorton, lui, il sait ce qu'il a besoin. Il ne va pas chercher Bob parce qu'il a été le gérant de Montréal. Il va chercher Bob parce qu'il a une personnalité et il a un vécu que Gorton n'a pas. Fait que là, lui, il va chercher pour se compléter. C'est comme un mariage. T'sais, la plupart du temps, les mariages, quand on regarde ça, les deux personnes, c'est pas qu'ils aiment toutes les mêmes affaires. Tu veux faire des bébés, là, ben, tu veux donner la chance à tes bébés d'avoir le plus de chances possible de réussir dans la vie. Donc, ça prend des gens complémentaires. Sinon, il y a des grosses lacunes dans ton mariage, dans ton couple. Fait que quand tu es complémentaire, tu as plus de chances d'être complet dans ton approche puis dans la façon que tu vas gérer les choses. Alors, c'est ça. Personne ne peut juger de cette embauche-là parce que c'est une embauche pour aider Gorton. Et c'est juste Gorton qui sait comment se faire aider. C'est ça, là. C'est pour ça qu'on a beau juger, là. Des fois, ça fait aucun sens pour nous autres. C'est parce qu'on ne connaît pas la personne qui prend la décision. Elle sait ce qui lui manque. Moi, quand j'ai des assistants, là, quand ils m'ont dit comment ça se fait que tu prends Mark Crawford, ça n'a pas de bon sens. Il y en a qui disaient que l'organisation m'avait imposé Mark Crawford. Écoute, il s'en est dit des niaiseries, là, ça n'avait pas de bon sens. Là. Je voulais Mark Crawford, je l'ai connu en Europe, je coachais contre lui. J'étais allé le voir et j'avais dit, si j'ai une job dans le national, j'aimerais ça t'avoir comme assistant. Comment tu vois ça? Puis on a jasé. Puis des mois plus tard, là, Ottawa n'avait rien à voir là-dedans dans la discussion-là à ce moment-là. Je ne savais même pas qu'Ottawa allait être disponible. Fait que quand c'est arrivé, là, j'ai appris qu'il était candidat. J'ai fait merde. Là, je suis dans la marde, mais j'étais honnête à l'entrevue. J'ai dit, moi, je sais que c'est votre candidat. Si vous voulez, parfait, je comprends ça. Mais si ce n'est pas lui, je veux juste vous dire que moi, j'ai dans la mire de l'avoir comme assistant parce que je savais ce que j'avais besoin. Moi. C'est ça qui est important. C'est comment je vais faire pour m'entourer, pour me compléter moi, puis m'aviser. T'sais, Martin Raymond, on s'est connus, ça fait 30, quelques années qu'on se connaît. Puis pourquoi je l'avais avec moi? C'est parce que Martin, c'est quelqu'un d'extrêmement patient, quelqu'un qui est bon avec des individus avec lesquels moi, je suis moins bon. Puis c'est quelqu'un, vu qu'on se connaît, puis qu'il est capable de me parler dans le casque, de me dire la vérité, bien, à des moments donnés, j'ai besoin de me faire dire les vraies affaires pour pas que les gens aient peur de ma réaction parce que je suis leur employé ou je suis le boss, tu comprends? Fait que là, Martin Raymond peut me tasser et me dire, « Hey, Guy, là, il y a bien, là. Ça, ça n'a pas de bon sens, là. Je m'excuse, personne ne va te le dire, là. Mais moi, je pense que t'en vas dans la mauvaise direction. » Fait que moi, j'avais besoin de Martin Raymond pour plein d'autres raisons aussi, mais parce que c'est ce que j'avais besoin pour moi.
Guy, c'était très intéressant ce que tu nous racontais. J'ai envie d'aller sur un autre département, mais qui, à quelque part, il peut y avoir une certaine connotation. Tu sais, je me souviens l'an passé, quand on parlait de Corey Perry, quand il est arrivé avec le Canadien, tu étais un ardent défenseur de Corey Perry. Tu disais à quel point ce gars-là était important dans le vestiaire et au quotidien. Puis là, on l'a vu, on était à même de le constater tout au long de la saison, surtout vers la fin dans les séries. Là, on l'a perdu cet été. Je me sers un peu du fait qu'il revient à Montréal ce soir, mais pas dans le bon uniforme, dans l'uniforme du Lightning, en te posant deux questions. Jusqu'à quel point il manque aux Canadiens et est-ce que le leadership qu'il a apporté avec Montréal l'an passé et il a été capable de le transposer exactement au même niveau avec le Lightning, oui ou non? Explique-moi ça. Je ne sais pas si tu comprends un peu où je vais aller avec mes questions.
Oui, je suis convaincu, mais moi, c'est parce que Je suis biaisé, je l'ai eu au championnat du monde quand je coachais l'équipe Canada avec les hommes, je l'ai eu. Et puis, ma perception de lui de l'extérieur n'était pas du tout ce qui était à l'intérieur. Parce que on avait un mauvais historique, disons, parce que dans le temps que je coachais à Rimouski, puis on était à Coupe Memorial, c'était à London. Et fait qu'on avait Crosby d'un bord, puis on avait Perry de l'autre bord. Puis dans ce temps-là, écoute, il était vraiment baveux, là. C'est un gars de talent, là, mais il est vraiment une face à claque, lui, là, pas à peu près. Là. Fait que puis sur une glace, là, qu'est-ce qu'il pouvait dire puis faire, là, écoute, tu perdais à quatre. Fait que, les gars l'appelaient Cocky Perry. Et puis, fait que, l'image que j'avais de lui n'était pas belle. Et je voyais bien le joueur qui était bon, là, mais moi, je n'avais pas une belle image de cet individu-là. Je pouvais juste m'imaginer. Alors, c'est là qu'on peut se tromper, parce que quand je l'ai eu après ça, moi, je pensais que c'était Getzlaff qui était le sérieux, c'était Getzlaff qui était, qui était vraiment le leader, puis qui était... Puis j'ai vu le contraire, pas que Getzlaff n'avait pas de leadership, tu sais, il y en avait, mais c'était beaucoup... Perry était celui qui était beaucoup plus sérieux. Écoute, il arrivait avant tout le monde à l'aréna, il venait voir son vidéo, il est extrêmement minutieux, toujours à l'heure, là, vraiment, en avance tout le temps. On avait une couple de jeunes, c'est lui qui s'en occupait, mais il y avait un langage plus... un non-verbal très rigide, très frigide, je te dirais. Et puis, c'était le contraire de ce que je m'attendais. Et je l'ai trouvé tellement professionnel. Et puis moi, j'étais le coach. Mais juste le voir aller, là, il y avait un aura, parce qu'il y avait une assurance en lui. Puis tu voyais que c'était pas quelqu'un qui avait besoin de démontrer qu'il était un leader. Il l'était. Alors ça, c'est une force. Sans même dire un mot, ça, c'est vraiment une force... de caractère qui se répartit sur tout le monde. Il y a une contagion là-dedans qui fait que tout le monde est calme quant à ça. Tout le monde est en confiance. Puis, il arrive sur la glace, puis il y a tellement de chiens. Il est pas juste baveux, là. Écoute, il prend des coups, il va devant le filet, bloque des lancers. Il fait tout le dirty work qu'on appelle pour... Fait que ce que ça fait, c'est un gars qui tire. Tu sais, quand je dis leadership, t'en as trois sortes. Là. T'as le leadership qui pousse les autres, t'as le leadership qui supporte les autres, t'as le leadership qui tire. Mais ça, c'est rare. C'est des gens qui vont dire, viens ici, moi te montrer. Moi, je suis capable de la prendre la pression. Moi, je suis capable, je l'ai déjà vu, j'ai déjà fait ça. Viens-t'en. Parce que, tu sais, les gens ont tendance à figer sous pression, les jeunes, puis tout ça, ou à sauver. Lui, c'est le contraire. Il chargeait à travers la pression puis l'adversité. Alors, ces gens-là sont extrêmement puissants. C'est, si on regarde Michael Jordan, là, sur Netflix, là, la fameuse série, c'est ce qu'on voit tout le long. Là, tu comprends comment ça se fait que ces individus-là gagnent souvent puis que leurs clubs n'ont pas le choix d'être bons. C'est comme Crosby, je l'ai vu, j'étais là. Ils sont tellement puissants et contagieux que tu n'as pas le choix. Là, tu es siphonné par leur attitude, leur éthique de travail, leur discipline. Fait que ce qui arrive, c'est que même s'ils sont moyens comme joueurs, ils viennent d'en rendre 5, puis 6, puis 7, puis 10 autres meilleurs. Vous imaginez l'impact de ça? C'est ça, le leadership. C'est la colle que ces gens-là ont qui fait que ça se tient ensemble. T'enlèves ça, là, les mêmes individus sont tous là, ça se tient plus. Puis là, on parle de Perry, mais là, les autres, là, les gros qui sont de même, c'était Price, puis c'était Weber. Il n'y en a pas d'autres, là, ils n'en ont pas. Fait que c'est pour ça là, que tu vois ce que tu vois. Oui, il y a des blessures, il y a un paquet d'affaires, mais même avec des blessures, si tu avais eu ces gens-là depuis le début, là, ça serait tenu. Là. Ça serait tenu au moins à un certain niveau.
Je t'arrête quelques instants, Guy, parce qu'on va laisser les gens de la télé partir. On va quand même vous dire que ça se poursuit sur le web. Et sur le web, entre autres, on va avoir des extraits de vestiaire, des échos de vestiaire, entre autres de Cole Caulfield qui va venir discuter. Il y aura également David Savard. Le temps de dire... Salut à ta mère Guy, salut à ta mère Yannick, ma salutation, puis on se rejase demain. Ma mère va être sûre, je dis bonjour, elle m'écrit même, elle m'envoie des gifs, même avant que j'y aille dit bye, d'après moi, elle va être sûre que je dise bye. Fait qu'on parlait des intangibles, tout ça. Guy, donne-moi, je voulais-tu rajouter quelque chose, sinon je vais lancer les clips tout de suite, puis avant de te poser une ou deux dernières questions.
Vas-y, je pense que ça devrait être un match qui est quand même le fun. Jouer contre Tampa, ça va être un beau challenge. C'est une équipe qui est dominante dans les dernières années. Donc, c'est sûr que pour nous, ça devrait être le fun. Puis c'est sûr que pour moi, ça va être un peu spécial, dans le fond, de revoir toutes les gueules sur la patinoire. c'est une équipe qui avait beaucoup de gars qui s'étaient rendus justement dans la finale de conférence, des choses comme ça. Donc, c'était un bel apprentissage de les voir aller. Puis, c'est sûr, comme j'ai dit, dans le fond, quand j'ai signé ici, c'est assez difficile d'amener un peu cette expérience-là avec moi.
It's good to have, you know, adversity in your life. You know, it makes you stronger. It makes you be able to go back and look at how you got through that, and it'll help you come out stronger in the end. And I think that's kind of my mindset right now, is just day to day, just trying to get better and, you know, control what I can, and you know, hopefully the rest will, you know, help itself out. And I'm just going to worry about what I can control.
Oui, exactement, contrôler ce qu'ils peuvent. On en a parlé de la formation du Canadien, à quel point elle est décimée. Là, il y a trois joueurs qui gagnent plus de 4 millions dans cette formation-là seulement, Hoffman, Vorak et Drouin. Les autres, tous en bas de 4 millions. C'est une équipe qui a à peu près 70 millions sur 90 sur la masse des blessés. Fait que, au lieu de s'attaquer sur le Canadien ou s'acharner sur le Canadien, parlons du Lightning, qui, eux, ont donné le signal du go à Vigneault et Therrien en les plantant. Je pense que ça s'est fini, quoi, 7-1, cette game-là. Moi, tantôt, je disais à Mardini, Guy, ils ont encore Vasilevski, ils ont encore Hellman, McDonough et Sergachev. Quand tu as tes trois plus gros défenseurs, ton gardien but, même si ça se blesse en avant, tu as des chances de passer à travers.
Tu as une chance de gagner à tous les matchs. C'est pour ça que, moi, je le dis toujours, ton gardien numéro un et ton top 4, là, c'est plus important que n'importe quoi d'autre. Tu peux avoir rien à l'avant, là, mais dans tous les matchs, tu peux être dans le match. Tu sais, pourquoi? Ben parce que l'adversaire n'est pas capable de te traverser, ton gardien va te sauver les fesses. Fait que, tu sais, ça, là, puis regarde, Columbus, c'est un exemple parfait là, avec Tortorella. C'était comme ça, là, tu sais, à l'avant, il n'y avait pas grand-chose, mais il était capable parce que la défense elle était solide, le filet était solide. C'était un peu la même chose avec les Highlanders. Les Highlanders, même chose, leur gardien de but des dernières années était bon. Puis à la défense, leur top 4 était très surprenant. Puis à l'avant, il était moyen, mais les joueurs moyens à l'avant deviennent meilleurs à cause de ton top 4 puis à cause de ton gardien de but parce qu'ils ont confiance que la rondelle ne rentrera pas dans leur filet, fait qu'ils ont confiance d'attaquer. Puis en même temps, ils savent que les défenseurs vont pouvoir les backer, vont pouvoir défendre, vont créer des transitions, vont justement pouvoir, avec la rondelle, faire traverser la zone neutre rapidement, les sorties de zone, vont être capables de gérer ça. Fait que tu subis beaucoup moins l'échec avant de l'adversaire parce que ton top 4 va être capable de gérer tes sorties. Et c'est ce qui fait que tu te retrouves en zone offensive plus souvent, même si tes attaquants sont moins bons. Alors, si juste par la statistique, tu vas être plus souvent en attaque parce que tu défends comme du monde, ton gardien de but, ils arrêtent, et tes défenseurs sont capables de transitionner, partir l'attaque et d'appuyer tout ça. Fait que puis aujourd'hui, la Ligue nationale, l'offensive, ça part des défenseurs. Pas juste dans ta zone, pas juste en zone neutre, mais en zone offensive, avec les permutations, avec l'activation des défenseurs, c'est tout de là que ça part. L'extra d'offensive des équipes, elle vient de là. Elle vient pas du fait qu'il va y avoir une troisième ligne, quatrième ligne avec des vedettes, là, c'est pas ça.
Guy, il y a plusieurs personnes qui réagissent autant sur Facebook que sur RDS.ca qui apprécient également tes commentaires. Et Christophe Landry, parce que tu as parlé de Corey Perry, puis j'ai pas eu le temps, Martin est arrivé avec la question, mais vite, là, il nous reste pas grand temps, mais Christophe Landry te demande, même s'il ne l'a pas côtoyé très longtemps, à quel est l'impact qu'un gars comme Corey Perry peut encore avoir sur Cole Caulfield? On sait que, je pense que Perry est toujours en contact avec Caulfield. Penses-tu qu'il le fait, même s'ils sont des adversaires maintenant? C'est la question de Christophe Landry.
Ça dépend vraiment ce qu'ils sont des amis ou non. Là. Ça dépend vraiment de la relation entre les deux. Moi, je sais que j'ai des joueurs, moi, qui jouaient dans les autres équipes contre nous autres puis qui m'appelaient régulièrement parce que je les avais eus avant. Tu sais, même, je donne un exemple, Bobby Ryan, il m'a contacté l'autre jour, on a une super relation, fait que là, tu sais, il n'est plus dans le milieu, fait que là, il voulait jaser du reste de sa vie, puis d'autres choses, fait que tu crées des relations, évidemment, tu as des affinités avec certains individus plus que d'autres, mais ça serait fort probablement plus le genre de si ça existe, leur relation serait plus genre Caulfield vers Perry. Tu sais, Caulfield peut peut-être le voir comme quelqu'un de qui il peut apprendre. Et oui, ça, c'est possible. Moi, j'ai ça moi-même. Tu sais, je veux dire, quand il y a quelque chose que je ne suis pas sûr, j'ai besoin d'aide, c'est pas parce que tu es coach national que tu n'as pas besoin d'aide. Tu en as toujours besoin d'aide. Tu as toujours besoin de l'opinion de quelqu'un d'autre, de la perspective de quelqu'un. Fait, regarde, moi, je prends le téléphone. Dans le temps, j'appelais Babcock, j'appelle Jacques Lamette, j'appelle Hitchcock, j'appelle tous les gars qui j'ai confiance. Justement, Bob Gainey, c'en est un. C'est drôle qu'on parle de Bob Gainey. Je l'ai appelé plusieurs fois. dans ma carrière de professionnel après, pour des conseils sur certaines choses. Fait que, tu sais, oui, ça se peut très, très bien que c'est possible, mais il reste à savoir est-ce que c'est une relation que les autres ont créée. Mais c'est sûr que plus Caulfield, plus Suzuki vont aller puiser dans des individus comme ça, bien, plus ils vont accélérer leur processus. C'est primordial dans la vie, là. T'as pas le choix. Si tu fais pas ça, bien, garde, t'avances très lentement ou t'avances pas.
Hey Guy, encore une fois, très intéressant. Un gros, gros merci pour ta participation. La bonne nouvelle, c'est qu'on te retrouve demain, au lendemain du match contre la Lightning. Tu seras avec nous demain à midi pour analyser le match de ce soir. Karel aussi, Karel Lemar va être là demain. Ça va être le duo, le dynamique duo, Karel et Guy. Fait que Martin, on va pouvoir, on va pouvoir prendre ça relax. Tu feras un bon café pendant l'émission. On va les laisser aller.
C'est bon.
Un bon après-match. Bon. On va regarder le match de ce soir et on va regarder ça ensemble demain.
C'est bon, merci. Yeah.
Salut Guy.
Bye bye,
bonjour. Salut, bye bye. Alors, un gros, gros merci à Guy Boucher et à Marc Denis pour l'émission d'aujourd'hui. Martin, allons-y avec les trois étoiles.
Oh yes, les étoiles. J'espère que l'ordinateur va participer. La troisième étoile, le third star du Facebook RDS, Serge Boily.
La deuxième étoile, the second star du Facebook, on jase, Olivier Gaulin-Gingras.
Et la première étoile, the first star, parce que c'est un vétéran, toujours présent, toujours de bons commentaires, de RDS.ca, Jean-Luc Pigeon. Pigeon!
Alors, un gros merci à Guy et à Marc. Merci à Valérie et à la réalisation mise en onde. Mathieu qui est avec nous aux médias sociaux. Toute l'équipe de production en régie également à RDS. Un gros, gros merci. Et à vous tous, les jaseux, de prendre le temps de nous suivre à la télé, sur le web et aussi de prendre le temps de nous écrire et de commenter. Demain, donc, Guy Boucher et Karel Lemar seront avec nous. Bon match ce soir. Et comme à l'habitude, Martin, je te laisse le mot de la fin.
Ah, le mot de la fin sera court. Bon match ce soir, amusez-vous, câlin à vos mères, embrassez vos enfants, puis on se parle demain.